Kat, je sais pas si tu nous as dit tout à l'heure ta première expérience avec l'ail, ton premier souvenir.
Non, je pense que j'en aurais pas d'idée. Je sais qu'il y a... Je pense que j'en avais mangé avant, mais c'est vrai qu'il y avait un truc où à un moment j'étais malade et on m'avait dit de manger une gousse d'ail crue justement, et un peu ce truc initiatique de si t'y arrives pas, t'es nul. Et où je l'avais fait, et je crois que à ce moment-là j'aimais pas l'ail, donc ça avait été assez intense. Mais il a grandi en moi et maintenant j'adore ça.
Alors justement, je rebondis, est-ce qu'on apprend à aimer l'ail? Et pourquoi, d'après vous, certains goûts arrivent tard, quoi? On met un peu de temps à apprécier une amertume ou un goût. Et l'ail en fait partie.
Ouais, je pense qu'il y a un peu ce truc des goûts forts qui sont un peu difficiles quand on est enfant parce qu'on est déjà dans la découverte. Nos papilles sont, c'est tout nouveau, on a peu d'années, on découvre des aliments. En plus, au départ, il y a quand même beaucoup de peur chez le bébé autour de certains goûts, de certaines couleurs. Donc, je pense qu'il y a un truc qui se fait petit à petit et qui commence à accepter les goûts qui viennent plus tard. Mais il y a aussi, je pense, des changements qui, j'imagine, je vais dire cérébralement de manière maladroite, mais il se passe des choses de physiques avec nos papilles qui viennent ressentir les goûts différemment à un certain moment. C'est pas juste un truc qui va se travailler. Je sais que, par exemple, moi, j'ai perdu le sens du goût et de l'odorat avec le Covid, chose qui aujourd'hui est encore très maladroit chez moi dans le sens où ça vient, ça repart. Et il y a des ingrédients qui, avant, j'adorais et qui aujourd'hui n'ont plus du tout le même goût. Et ce ne serait pas dû au Covid qui aurait modifié le sens de mes papilles. C'est mon cerveau qui aujourd'hui l'interprète différemment et qui viennent me faire aimer ou non des ingrédients qu'avant j'aimais ou je n'aimais pas. Donc je pense que ça doit fonctionner aussi en dehors de ces moments de pause de goût qui viennent modifier avec quelques années le goût qu'on perçoit des choses, je pense.
Et ça se manifeste comment en fait là, l'occasion du Covid de plus ressentir de goût, c'est-à-dire ton cerveau traduit aucun stimuli
Alors, je sais pas trop comment ça marche. En plus, du coup, vu que ça fait maintenant longtemps que j'ai ça, je n'arrive pas à savoir si des fois c'est mon cerveau qui imagine le goût ou si je le sens
ou tu le
vraiment.
reconstitues
Ouais, je
à
sais
travers le
pas.
souvenir ou...
Je pense que des fois il se passe ça et que des fois non. Ce que je sais, c'est que des fois j'ai que l'odorat ou des fois j'ai que le
Ok.
goût. C'est très particulier, ouais.
C'est aussi chimique, c'est une question de gène.
La coriandre.
Ouais, voilà,
Ah
coriandre,
oui,
bien joué.
exactement.
Mais c'est vrai qu'on va parler de ce truc-là. J'ai un copain, tu lui mets, mais ne serait-ce qu'une micro-feuille de coriandre dans un plat, il me dit ça a un goût de savon.
Ouais,
Je lui
c'est
dis, est-ce
ça.
que tu as déjà mangé du savon?
Souvent, on
Il
dit
me
ça.
dit que non.
Donc, moi, je le ramène toujours à cette histoire peut-être de tradition. Et est-ce qu'on hérite d'une cuisine comme on peut hériter d'une langue?
Ouais,
Ouais.
complètement. Mais là, justement, c'est un sujet qu'on travaille pas mal avec Lucas en ce moment, qui est donc la cuisine comme trace d'une culture. Je trouve un intérêt particulier dans la culture des foyers, qui est que dans un travail qu'on est en train de faire en ce moment, on va manger chez des gens et on peut découvrir leur culture à eux, leur manière de manger. Par exemple, une personne qui collectionne des baguettes, qui met dans un bocal, et donc du coup, on comprend qu'il y a un peu une passion autour de la cuisine asiatique, ou en tout cas de manger avec des bouts de bois, en fait, pour être honnête sur la manière de parler. Et je pense que du coup, ça, s'il y a ce genre de culture qui peuvent exister, il y a forcément aussi une culture du goût qui doit se faire, comme on ne mange pas la même chose dans différents pays, mais même dans différentes régions, avec du coup, comme tu l'as dit, cette approche par la descendance. Je pense complètement, ouais.
Ouais, puis j'aime bien que tu compares ça à la langue, parce que en fait ça dépend des foyers, ça dépend des gens, mais des fois il y a une langue qui est héritée. Les enfants, ils apprennent super vite, du coup ils deviennent bilingues très rapidement. Il y a d'autres personnes pour le coup, surtout dans les familles qui sont issues de l'immigration, où l'apprentissage de la seconde langue, ou en tout cas de la première langue des fois, a été oublié ou tu, parce qu'à l'école on ne pouvait pas parler sa première langue. Et du coup, il y a un apprentissage sur le tard de sa deuxième langue. Et je pense que c'est un peu pareil des fois avec les traditions culinaires, avec la cuisine, où typiquement quand on est enfant, enfin, j'ai l'impression qu'on donne aux enfants beaucoup de choses qui n'ont pas beaucoup de goût. Et après, leur palais s'éduque et c'est comme un muscle et ça s'apprend, comme apprendre à marcher. C'est pour ça que c'est super drôle de regarder des vidéos d'enfants qui essaient de goûter un citron pour la première fois. Qui font, comme les chats aussi font ça me fait mourir de rire. Mais voilà, c'est une histoire d'apprentissage en fait, je crois, et des fois on en hérite, des fois on l'apprend sur le tard. Ça vient aussi avec l'envie, quoi, d'apprendre une langue ou d'apprendre une culture culinaire.
Donc, est-ce que justement vous pensez que la cuisine familiale, c'est une forme d'archive? Et qu'est-ce qui se transmet dans une recette au-delà des ingrédients?
Moi, je pense que c'est, ouais, je pense que c'est vraiment une forme d'archive et j'aime bien ce mot-là. Justement, là, en ce moment, on est en train de bosser à la Toguna, c'est le café associatif de l'association Partage, côté Bordelongue. Et en fait, on fait des ateliers autour du couscous où justement ces femmes viennent nous apprendre différentes manières de faire le couscous. Ce dernier vendredi, on a fait couscous tunisien et le 5 juin, on fait couscous algérien. Et du coup, c'est super intéressant. Nous, on vient observer et faire des photos, prendre des notes. Et en fait, on se rend compte que on ne peut pas utiliser la même méthode que quand on va chez des familles déjà francophones, comme on le fait sur un autre projet. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les gestes, dans les mains. Et c'est aussi des femmes qui switchent du français à l'arabe. Et nous, on n'arrive pas à suivre. Du coup, on prend des notes, on regarde. Et en fait, on se tait et on regarde. Et c'est comme ça que ça marche. Et du coup, on a observé plein de gestes et de manières de faire. Et en fait, si tu détournes le regard une seconde, tu peux louper un truc qui va changer la recette, en fait, ou qui va changer le narratif autour de la recette. Nous, on a vu Nazia, qu'on mentionnait tout à l'heure, partir 10 minutes. On la voit plus. Et elle revient avec une branche de figuier. Elle enlève la feuille et elle met la branche de figuier dans la sauce du couscous à la fin. Et en fait, elle nous dit la viande, elle est pas assez cuite, donc j'ai mis ça pour que ça l'attendrisse. Et ouais, pour moi, c'est un... Là, on est vraiment en train de travailler un archivage de recettes qui se transmettent beaucoup à l'oral et qui se transmettent et qui se gardent à l'oral, hein, de génération en génération.
Bah, je veux juste insister sur un truc, justement, par rapport à Nazia et la notion de culture de la cuisine par la descendance. En dehors des recettes, il y a aussi le geste qui se transmet. Fondamentalement, ça, c'est un truc qu'on est en train de découvrir et travailler beaucoup en ce moment. Donc Nazia, quand elle me montrait ce fameux geste dont je parlais tout à l'heure, de venir écraser les oignons dans le sel, elle me disait « attention ». Enfin, elle me le disait, elle me faisait comprendre « attention, je t'observe, si tu le fais mal... » il faudra que je repasse derrière toi. Donc elle regardait juste mes mains sans rien dire. Ça fout la pression, faut être honnête. Et au bout d'un moment, elle voit que j'ai réussi. Et elle me dit, ok, t'as le geste, maintenant tu peux demander à être tunisienne. Et là, ça, je trouve ça hyper intéressant en vrai. Parce que ça veut dire que... ouais, ça veut dire que parce que j'ai le geste culinaire qu'on lui a transmis, je peux dire que je suis tunisienne aussi.
Pour ne pas être prise de court, je prépare toujours à l'avance ma purée d'ail. Je vous donne ma technique.
Moi, j'aime l'ail, ça tombe bien, mon amoureux aussi. D'ailleurs, j'aime ceux qui aiment l'ail. Mais une bonne façon de consommer de l'ail tout au long de l'année sans avoir des problèmes ni de digestion ni d'haleine un petit peu chargée, c'est de préparer un confit d'ail. On va commencer par mettre toutes nos gousses d'ail qu'on aura simplement détachées les unes des autres et qu'on aura laissées dans leur peau, c'est-à-dire en chemise, comme on dit techniquement. Si vous trouvez de l'ail rose comme celui-ci, le plus rose possible, ça veut dire qu'il sera plus frais que l'ail blanc, qui en général est un ail de conserve, donc privilégiez l'ail rose. Savez-vous que l'ail a beaucoup de vertus? C'est un antiseptique, il évite les taux de cholestérol trop élevés, il est très bon pour les artères. On a fait bouillir de l'eau dans une casserole, de façon à pouvoir les pocher. Le principe de cuisson est un peu particulier, mais très efficace. Il faut faire cuire les gousses 3 fois 3 minutes en changeant l'eau à chaque fois. Fin de la dernière cuisson, cette fois-ci on va les rafraîchir de façon à pouvoir les peler plus rapidement parce que vous allez voir, une fois qu'elles sont cuites, je retire la petite extrémité noire, la gousse sort toute seule. Maintenant on va mixer le tout avec un tout petit peu de liquide, mais vraiment un chouïa. Heureusement que j'aime l'ail, hein. Maintenant on va mettre notre purée d'ail dans un petit bocal, le recouvrir d'une fine pellicule d'huile pour qu'il se conserve plusieurs mois au frais. Je sais pas pour vous, mais moi, la purée d'ail, j'aime bien la mettre dans des vinaigrettes, dans des purées, dans un gâteau au chocolat, dans une crème anglaise, dans une crème caramel.
Faire de la cuisine, c'est aussi un temps pour soi. C'est même compliqué de l'intellectualiser, quoi. C'est quelque chose d'assez spontané.
Ouais, ça te paraît tellement logique que ça ne devient même pas de l'expliquer, quoi. C'est ce qu'on voit beaucoup avec les personnes un peu plus âgées qui traînent leurs recettes depuis leur maman, leur grand-mère. C'est pour ça que dans beaucoup de cuisines et dans beaucoup de maisonnées, les gens ont une collection énorme de livres de cuisine et ils les ouvrent jamais.
Ouais.
Parce que quand tu suis une recette de cuisine, mais tu peux la suivre à la lettre, il y a toujours une information, un geste que tu n'auras pas, en fait. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas expliquer, qui sont d'une subtilité. C'est pour ça que nous, dans notre livre de cuisine, je crois qu'on a accepté ça. Les gens, ils nous disaient pas de quantité. Les quantités, tu mets ce que t'as envie. Écoute, t'aimes bien.
Oui, de toute façon, tu les modifies en vrai. Quoi.
Dans tous les cas, tu vas les modifier.
Ouais,
il y a très peu de personnes qui suivent à la lettre.
Ouais, 100 grammes de fan, moi, j'en mets un peu moins.
Surtout sur de la cuisine salée, on a beaucoup plus de marge de manœuvre. Et qui suis-je pour te dire combien de gousses d'ail t'as envie de mettre dans ta soupe? Autant que tu veux, en fait, j'ai envie de te dire. Donc on s'est pas embêté, je crois, à mettre des quantités aussi pour ça, mais ouais, il y a beaucoup de choses qui passent par le regard et par l'apprentissage visuel du geste, quoi.
Par contre, je suis pas trop d'accord sur la notion de silence dans les cuisines. Enfin, peut-être silence de mots techniques pour dire ce qu'il faut faire. Par contre, il y a beaucoup de non, oui, plus, moins. Et je trouve qu'il y a aussi une grande différence de notion de bruit dans les cuisines familiales ou les cuisines professionnelles. Mmh, où quand tu es en cuisine professionnelle, en fait, on parle quasiment pas quand on est en train de faire de l'envoi. C'est plus quand ça va se calmer qu'on va venir se faire des blagues. Alors que là, par exemple, quand on était dans la cuisine, après, je pense que tout le monde pourra s'imaginer dans le même type de cuisine avec sa famille ou ses amis, elle parlait beaucoup. Elle se racontait beaucoup de choses. Mmh. C'est un moment de partage incroyable, la cuisine, où on vient se raconter nos anecdotes, on vient parler d'un truc qui nous est arrivé hier, on vient dire « Ah bah moi, ma recette, c'est pas comme ça que je la fais. » Je trouve qu'au contraire, c'est vraiment un lieu hyper social et avec beaucoup de bruit.
Ouais, et de confidence aussi. Ouais. Là, j'ai fait une espèce de comparaison, peut-être à tort, mais entre les cuisines professionnelles, j'ai l'impression que c'est très segmentarisé. Tout le monde a une tâche très particulière. Ah oui. Et ça me rappelle la division du travail, en fait. C'est-à-dire que le patronat préfère voir des employés, tu vois, sous-qualifiés, qui ne savent exécuter qu'une petite tâche.
Je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Et c'est vrai dans beaucoup d'endroits. Comme n'importe quel corps de métier, il y a aussi la passion. Et la plupart des cuisiniers que j'ai rencontrés, les cuisinières, il y en a beaucoup qui étaient passionnés et qui avaient pour but justement de savoir plus que la tâche qui leur était enseignée. Déjà parce qu'il y a aussi une envie d'évolution, la passion qui donne envie de connaître, mais aussi l'envie d'être capable de maîtriser sa cuisine seule. C'est hyper important, c'est un enjeu. Je trouve que dans les cuisines, il y a souvent ce truc de... pas de compétition forcément envers les autres, mais envers soi-même. Les rushs, on veut être la personne qui arrive à tout gérer, qui arrive à tout comprendre dans la cuisine, sans forcément vouloir écraser les autres. Ça arrive bien entendu, mais... Du coup, je dirais que oui, si on voit la cuisine comme juste un monde de travail, chacun a sa tâche et ne connaît que sa tâche comme un milieu ouvrier, même si c'est assez, c'est assez maladroit de faire une comparaison, mais qu'en vérité, il y a beaucoup de passionnés qui ont envie et savent gérer tous les postes.
Mais ça alors, pourquoi portez-vous tous de l'ail ? Des l'ail ? Pour Solage et tous les bonbons.
Les accès,
les roues,
même les bêtes.
J'ai de la gueule, la gueule, la gueule, la gueule
de la calvitie. La brosse à des lave-vaisselle.
Gueule, la gueule, la brosse des chevaux. Gueule, la gueule, la brosse des chevaux. La brosse dans la patate, toujours brosse de taille, de la savon de dents.
Tout à l'heure, on parlait de l'enfance. Alors, c'est vrai que l'enfance, malheureusement, c'est aussi l'apprentissage de l'existence des monstres, au sens propre comme au sens figuré. Alors, pourquoi l'ail protège-t-il des vampires ? Pourquoi on en suspendait aussi aux portes ? Alors, moi, j'ai vu que dans les croyances populaires, le vampire, en fait, n'était pas d'abord un personnage romantique, comme il a été utilisé et développé par la suite dans l'imaginaire, mais c'était un mort qui revenait, en fait. Donc, c'est une force impure qui est souvent associée à la maladie, à la décomposition et aux épidémies. Donc, voilà, c'est une période, justement, où l'ail est alors utilisé comme une protection, puisqu'il cumule plusieurs propriétés symboliques, avec l'odeur, on l'a vu, qui va repousser les esprits, les entités invisibles. Voilà, ce lien symbolique aussi entre le corps et le sang, puisque dans certaines traditions, elle est aussi associée à la vitalité, donc à l'idée de vaincre la mort, quoi, de renaissance, d'où le rapport aux vampires, quoi. Concernant ces superstitions, est-ce que vous pensez que c'est une manière peut-être un peu populaire, voilà, de se rassurer, en fait ?
Je sais que c'est aussi quelque chose qu'on a pu voir dans différents moments où il y a eu des crises épidémiques monstrueuses, où on cherchait du coup une solution à notre échelle qui permettait de pouvoir se rassurer, de se sentir protégé d'une manière ou d'une autre, en sachant qu'il n'y avait pas de solution qui était particulièrement proposée à ce moment-là. Et vu que l'ail était déjà considéré comme quelque chose un peu magique et qui avait des bienfaits sur la chance et le mauvais œil, j'imagine que assez facilement l'utiliser dans le milieu de la santé monstrueuse peut être... assez rapide, ouais, vraiment pour le coup.
J'aime bien santé monstrueuse. Ouais, je pense en plus, c'était une époque où il y avait beaucoup de mortalité infantile. Et du coup, enfin, je sais pas, je pense qu'il y avait un amalgame très rapide entre les maladies, les figures monstrueuses un peu mythologiques et le rapport un peu satanique au christianisme, tout ça. Enfin ouais, un mélange entre le monstre, Satan, ouais, beaucoup de mythes. Et je pense qu'il y avait aussi un sentiment de détresse quoi, face à ces épidémies. Et du coup, besoin de se raccrocher à quelque chose peut-être de mystique, je ne sais
mais
pas.
Mais c'est vrai que maintenant que j'y repense, même avec la peste, et même quand on regarde un peu dans le milieu de la magie et tout, on est souvent protégé par une odeur. C'est vrai que pendant la peste, ils avaient le masque avec quelque chose dedans, on allume de l'encens, et on fait des fumigations pour enlever les mauvais esprits, ce genre de choses, qui ont souvent des odeurs très fortes. Peut-être que là, il y avait ce truc aussi, c'est une odeur forte qui doit éloigner quelque chose.
Dans les maisons, on fait brûler...
Ouais.
Le Palo Santo.
Le fumato.
Et aujourd'hui, pour vous, quelles sont les inventions des protections symboliques, les protections symboliques modernes? Et vous, est-ce que vous avez des gris-gris
Moi j'ai mon gris-gris pas si moderne que ça. J'ai une boucle d'oreille avec un cornicello, qui est un petit piment rouge.
Ah, mais oui.
Et voilà, ça dans le sud de l'Italie, c'est un symbole de protection, de fertilité, de plein de choses... Ouais, de protection. Moi, je le porte. Je sais pas si j'y crois ou si j'y crois pas, mais en tout cas, j'y tiens énormément et c'est un peu mon petit gris-gris à moi. Et voilà, mon grand-père n'aime pas que je prenne la voiture si je n'ai pas ça sur les clés. Sinon, je vais faire un accident. Voilà. Et après, il y a des trucs un peu plus religieux. Ça, c'est plutôt ma grand-mère qui me fait avoir un poster en format A3 de Saint-Antoine dans ma chambre. Peut-être on peut se contenter du format, je sais pas, A5, tu vois, photo normale.
Tu l'as fait une fausse moustache ou...
Non, je l'ai mis dans l'armoire. Du coup, des fois, elle rentre dans la chambre, elle vérifie que Saint-Antoine est toujours dans l'armoire et elle repart à l'air satisfaite et soulagée. Toi, t'as des gris-gris?
J'avais. Là, pour le moment, il est gentiment dans un petit coffre chez ma sœur. Luca m'a gentiment offert un piment qui vient de Calabre aussi, qui, pour le coup, je me sens très protégée avec. Mais moi, je crois un peu... Les trucs d'énergie, tout ça, j'aime bien. Et c'est vrai que j'ai fait des guirlandes chez moi de baies des oiseaux. C'est des petites baies rouges que j'ai mis au-dessus des portes, donc au-dessus de la porte d'entrée et au-dessus de la porte de ma chambre, et qui a pour but normalement d'empêcher les mauvais esprits de rentrer. Et j'aime bien savoir que mon chez moi, il y a tout ce qui fait qu'il n'y a que mon énergie dedans. C'est vrai que ça, c'est un peu mon truc pour le coup.
Alors, ce qui est amusant, c'est que sur trois personnes ont un piment, puisque moi aussi j'en ai un. Qui vient de Naples, c'est rigolo quand même. Trois personnes.
On est hyper protégés ici.
Voilà, c'est unique ce qui se passe.
Ça, entre ça et la sauge qu'on fait brûler. Oui, donc on parlait des monstres. Ce serait quoi pour vous les monstres contemporains contre qui vous aimeriez bien vous protéger quoi.
Alors, pardon, je passe juste à côté. Ça me rappelle juste une action dont Mona Chollet parle dans le livre Sorcière. Ce moment où il y a des femmes qui vont se grimer en sorcière et qui vont jeter des sorts sur la bourse. Et il y a plein d'hommes qui vont être hyper effrayés et du coup il y a toutes les actions qui vont baisser. Et ça me fait un peu penser à ça, pardon, ce truc de ces femmes, les monstres contemporains qui peuvent jeter des sorts aux hommes et à l'économie. J'y pensais, pardon.
Et pour répondre à ta question, Canal Sud est indépendante, elle ne... On peut dire.
Alors tu as une liberté totale de parole.
C'est super. Bon, les vilains méchants contre qui?
Numéro 1.
C'est quoi ton top 5?
Top 5, la France à Macron. Voilà, tous les gros dirigeants, les Bolloré, là ceux qui nous bouffent l'édition indépendante aussi, et les Netanyahou, tous ces vilains. Tous ces vilains méchants...
Peut-être leur envoyer une petite gousse d'ail.
Ouais, par la poste. Ah, d'ailleurs, chez Macron, ça coûte même pas un timbre. On peut envoyer gratuitement une lettre.
C'est vrai.
Mètres. C'est
envoyer
la seule personne à qui on peut
envoyer...
Tout
le monde en s'y met, on lui envoie une gousse d'ail.
Voilà, une petite gousse d'ail. Mais je pense qu'on pourrait réinventer, tu vois, les monstres dont Claude Ponty parle dans ses grands livres illustrés. Là. Moi, quand je pense aux monstres, je pense à ce mec-là et qui, en fait... a vécu des histoires absolument horribles dans son enfance et il dessine les monstres pour les enfants. Mais lui, les monstres de sa vie, c'est des hommes qui lui ont fait du mal. Et en fait, c'est une manière d'imager pour les enfants un milliard de violences en fait, auxquelles énormément de monde sont exposés. Mais du coup, ces monstres-là, ça pourrait être aussi nos Macron, nos Netanyahou. Notre... les vilains monstres de Claude Ponty.
Leur mettre une grosse gousse d'ail dans la bouche pour leur empêcher de parler.
Ouais.
The bells of the cathedral.